Émission spéciale Expertise Galtier, face à l'explosion des sinistres, êtes-vous bien assuré sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale Galtier, Expertise Galtier. On est ravis d'accueillir Coralie Couvret, bonjour Coralie.
Bonjour.
Directrice générale déléguée du pôle immobilier chez Expertise Galtier, bienvenue à vous. Et vous êtes venue en compagnie de David Pitoun, bonjour David.
Bonjour.
Voilà, pour qui c'est une première, bienvenue à vous, vous êtes directeur général délégué, directeur du pôle sinistre du groupe Expertise Galtier. Justement, on va se poser la question ensemble, face à l'explosion des sinistres, êtes-vous bien défendu? On va voir ça avec vous, David, qui est un expert. Alors, premièrement, est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu les différents pôles pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'étendue du groupe Expertise Galtier?
Alors, Expertise Galtier est le premier groupe européen en matière de sinistres. Aujourd'hui, nous sommes, Expertise Galtier, nous sommes 260. Au niveau du pôle sinistre, nous sommes 60 personnes, dont 50 experts, France entière. Et nous réalisons des dossiers non seulement en France, mais également à l'étranger. Nous travaillons sur plusieurs secteurs, le secteur de l'industrie, le secteur de l'entreprise, ETI, et les secteurs du particulier, du risque particulier, avec des spécialités pour chacune des problématiques que nous rencontrons. Donc une problématique bâtiment, généralement, qui est la première chose hein, quand on a des tempêtes oui. ou des dégâts des eaux ou des incendies de bâtiments.
Ça vous risquez d'avoir du boulot hein, dans les années à venir.
On a un peu de travail, en effet. Et puis, il y a une partie qui est intéressante dans l'industrie, la partie matérielle et installation technique. Donc, quand nous intervenons sur, par exemple, des bâtiments où on fait du traitement de surface, des choses comme ça, donc ça peut être très intéressant. On a une autre activité qui est la partie marchandises et pertes d'exploitation, qui est plus généralement nommé préjudice financier. Donc préjudice financier, ce sont les marchandises, les stocks, généralement. Donc, et puis également la perte d'exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce également qui peuvent intervenir. Donc aujourd'hui, en effet, on est souvent sollicité par des grands groupes.
Oui, donc vos clients, c'est essentiellement des grands groupes, donc c'est du B2B, c'est du CAC 40, des industriels, on peut avoir aussi des collectivités?
On peut avoir également des collectivités, on a un gros portefeuille de PME, PMI oui. aussi, on intervient, qui est très intéressant, puisque la PME, PMI, malheureusement, quand un sinistre survient dans un site de production, qui est le seul site de production, ça entraîne bien sûr des modifications au niveau de leur business, et donc on est là pour les aider, pour prendre les bonnes solutions, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire appel à la sous-traitance, est-ce qu'on doit faire appel à la concurrence même, parfois, et voilà, on essaie de remettre en place des systèmes de production intermédiaires, des systèmes de production temporaires qui permettent de faire face à ces sinistres.
Alors justement, les types de sinistres, quels sont les types de dossiers que vous traitez? Alors vous en avez évoqué certains, hein, effectivement, tempête, dégâts des eaux, incendie qui mmh. revient bien évidemment, mais on voit aussi des risques nouveaux qui apparaissent, David Pitoun.
Tout à fait, donc aujourd'hui, alors dans le matière, pour revenir sur l'immobilier, on a des problèmes de construction souvent, donc on peut avoir des problèmes d'assurance de construction, mais aujourd'hui les risques qui font beaucoup parler d'eux, ce sont les risques cyber, donc on intervient également sur les risques cyber, nous avons fait le recrutement d'une personne qui est spécialisée dans le risque cyber, qui est une expertise complètement à part, qui est un marché complètement à part, c'est une niche en réalité, avec des assureurs. On a eu ces dernières années beaucoup d'assureurs qui ont pris quelques bouillons sur les risques cyber et qui ont retiré leur bille, donc il manquait de capacité à ce moment-là. Et là maintenant, à partir du moment où on a redéfini le risque et qui mérite pas mal de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande à un assuré, quand il veut souscrire une assurance cyber, d'avoir un audit au début du dossier, au début oui, de la souscription, un audit complet de son système d'information.
Pour savoir quelles pourraient être les failles.
Voilà, tout à fait. Donc ouais. L'audit. Et donc après, maintenant qu'on est revenu, il y a un balancier qui est revenu, et donc aujourd'hui on re-souscrit de l'assurance cyber, mais avec des conditions un peu draconiennes au niveau justement audit qui sont nécessaires. Mmh. Mais aujourd'hui, il arrive encore que malheureusement, malgré ces audits, des attaques régulières se passent sur leur système d'information. Donc on intervient également sur ce problème-là. Alors on intervient sur la deuxième phase, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas spécialisés dans la partie remédiation, puisque l'attaque cyber entraîne une problématique de remédiation du système d'information.
C'est-à-dire remise en route ?
Remise en route, tout à fait.
Ceux qui ne seraient pas dans le jargon.
Non, tout à fait. Remise en route du système d'information. Et puis après, il y a des conséquences derrière qui en découlent. Mmh. C'est-à-dire l'appel à des sociétés spécialisées pour remettre en place tout leur système, tout leur logiciel. Et puis, le préjudice financier qui peut en découler également avec des frais supplémentaires d'exploitation ou de la perte d'exploitation.
Bien sûr, ou la perte de données. Alors c'est vrai que tout le monde matérialise bien ce qu'est un incendie, le bâtiment, avec la perte peut-être de données. Mais c'est vrai que le risque cyber, là, il faut bien dire que quand on est hacké ou qu'il y a une faille, plus personne ne peut travailler dans l'entreprise. On est bloqué pendant des jours, des semaines.
Plus personne, les commandes n'arrivent plus. Mmh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'entreprise est dans l'arrêt. C'est-à-dire les clients ne peuvent plus passer commande. On ne peut plus, nous, faire passer à nos clients les achats, les ventes et tout ça. Donc, le système est complètement arrêté. La production est arrêtée. Les achats sont arrêtés. Voilà. Donc, c'est un arrêt immédiat de l'activité de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment perturbant en amont, en aval. Sur toutes les parties de la société.
Ouais, ça veut dire aussi des nouveaux collaborateurs, vous l'avez dit, recrutement de spécialistes, de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Justement, les nouveaux experts, les recrutements à venir, ça va être quoi pour...
Alors aujourd'hui, on développe cette nouvelle, parce qu'on était une entreprise qui a travaillé, qui était bien notée dans les incendies, tout ça. Aujourd'hui, le marché anglo-saxon fait qu'il y a des nouveaux risques, en effet, le risque cyber. On réfléchit aussi sur le risque fraude, puisqu'aujourd'hui, des entreprises subissent des fraudes. Donc, nous, nos clients, ce sont les entreprises. Donc, les entreprises qui subissent des fraudes doivent être aussi défendues là-dessus. Donc, il y a des garanties fraudes qui existent. Et donc, on va développer au fur et à mesure ces nouvelles activités, ces nouveaux pans de l'assurance qui n'étaient encore pas traditionnels il y a quelques années.
Voilà, on fait un focus avec nos experts de Galtier aujourd'hui sur justement les sinistres, comment on se défend, avec justement une question peut-être un peu plus technique, justement pour Galtier, qui est le donneur d'ordre. Est-ce que c'est la compagnie d'assurance ou c'est la société elle-même qui a subi le sinistre ?
Expertise Galtier, ce sont les sociétés. Ce ne sont jamais les compagnies d'assurance.
D'accord.
Donc nous avons pris le parti de défendre les assurés. C'est-à-dire depuis 1894... Expertise Galtier existe. Expertise Galtier est arrivée sur le marché et a été créée au moment des grands incendies dans les industries textiles du Nord. Et donc, on a créé les premières sociétés en 1894. Donc, au fur et à mesure...
Donc, à l'époque déjà, il fallait auditer, voir quelle était la cause de l'incendie, c'est bien ça ?
Alors, oui, tout à fait. Et surtout, évaluer le préjudice. Évaluer le préjudice, qui est important. Évaluer le préjudice, donc, il y a eu des grands incendies qu'ont connus Londres, qui ont développé le marché de l'assurance. Donc, tout ça vient du marché de l'assurance. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on développe notre activité à travers les sinistres risques industriels. C'est vraiment notre fonds de commerce, notre base, notre socle. Et puis, au fur et à mesure, on s'est interrogé sur d'autres activités. Donc là, récemment, comme vous le savez, la France subit quelques catastrophes naturelles à répétition. Donc on a des sinistres sécheresses qui arrivent énormément. Il y a un arrêté qui est passé.
Qui provoque des effondrements, d'ailleurs, il faut le savoir.
Alors, il y a deux
parce que la sécheresse, en fait, on se dit toujours, il fait chaud, c'est pas très grave, mais en fait, le sol devient extrêmement dur. Et les fondations peuvent être mises à mal et provoquer des effondrements, ce qu'on a vu beaucoup dans le sud-est, notamment.
Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, il y a un arrêté qui est passé il y a un mois ou deux, qui a décrété 3200 communes ayant subi des catastrophes naturelles l'année dernière sur le problème de la sécheresse. Ouais. Donc 3200 communes, vous imaginez, avec 10 maisons dans les 3200 communes, vous voyez à peu près le nombre de dossiers que ça peut engendrer.
D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça a été une catastrophe, notamment pour les assureurs. Et alors, les assureurs, il faut le savoir, se réassurent eux-mêmes.
Oui, bien sûr.
Et le risque, effectivement, et le coût porté par les assureurs a été phénoménal l'an dernier. Ça chiffre en milliards d'euros. Et certains, vraiment, ont été dans une situation extrêmement compliquée.
C'est le principe de la mutualisation. Ouais. La mutualisation du risque.
D'où les primes qui augmentent,
tout à fait,
évidemment.
Les primes augmentent. Mais la mutualisation du risque, parce que l'assureur que vous avez réassure un autre assureur, qui est rassuré par un autre assureur, et donc du coup, des catastrophes naturelles qui se passent en Australie, à un moment donné, c'est quand même un impact sur votre assureur, vous, donc par cascade, comme ça. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le problème des catastrophes naturelles dans le monde entier, dans le monde entier, a un impact sur le marché de l'assurance en France. Donc c'est ça qui est... Et c'est vrai que quand on voit 3200 communes qui subissent un arrêté catastrophe naturelle, ça a forcément un impact sur les années à venir au, ouais, niveau, de la, au niveau des primes d'assurance.
3200 en 2022, mais on peut imaginer qu'Aurélie Couvrey, que ça va être plus peut-être cette année, puisqu'on est déjà dans une année exceptionnellement chaude.
Ça peut doubler.
Et ça, ouais, peut doubler, ouais, c'est très facilement.
Et puis depuis vendredi, maintenant, nous avons des séismes en France aussi.
Oui.
Donc, des séismes, on avait eu les sinistres du Teil en Ardèche, qui avait créé beaucoup de dommages, mais là, on s'est aperçu que le sinistre séisme avait eu un impact géographique plus important que simplement une petite localité qui s'appelait le Teil, qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans. Là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communes qui ont subi des secousses sismiques vendredi dernier. Donc, tout ça fait que, en effet, et puis ça rentre clairement dans le fonds de catastrophe naturelle, donc aujourd'hui, c'est comment on finance ce fonds de catastrophes naturelles. Donc, il y a des augmentations de primes, il y a des augmentations de primes qui se font automatiquement sur tous les contrats d'assurance, mais ça risque d'être compliqué dans les années à venir si on continue à avoir de tels événements en France. Oui, tout à fait.
Alors justement, ça fait une transition pour le développement durable, hein, sujet, vous l'avez dit, d'actualité. On va s'intéresser justement au recyclage des matériaux, puisque l'économie circulaire, elle est également au cœur du sujet. Alors, est-ce qu'elle est prise en compte justement par tout le système assurantiel ?
Alors aujourd'hui, on a constaté en effet, notamment sur le deuxième semestre 2022, une augmentation des coûts des matériaux très important. Très, très important. Alors, rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand un sinistre survient, l'indemnisation doit être faite au jour du sinistre. Alors, c'est l'indemnisation classique en matière d'assurance. Or, quand on a un bâtiment de 3000 m² qui a brûlé, c'est difficile de faire une valorisation au jour du sinistre, puisqu'il faut un peu de temps pour reconstruire 3000 m². Donc, il y a eu une inflation des coûts des matériaux. Donc aujourd'hui, les assureurs nous disent « mais moi, je dois une indemnisation contractuelle au jour du sinistre ». On leur explique, donc on essaie d'anticiper ça, et c'est le travail que font mes experts, qu'il faut faire une valorisation à 12 mois au moins pour reconstruire un bâtiment de 3000 m². Donc on se heurte parfois à certaines problématiques. C'est vrai que l'histoire de du recyclage des matériaux nous permet peut-être d'avoir une porte de sortie par rapport à cette problématique-là. Et j'entends aujourd'hui beaucoup de récupérations qui se font, notamment sur des plateformes qui se mettent en place, sur des agencements, comme le disait Coralie tout à l'heure, sur la problématique au niveau des portes, des agencements secondaires, des choses comme ça. Et puis, il y a également de nouveaux matériaux qui viennent par cette valorisation. Donc, des matériaux qui présentent des caractéristiques thermiques qui sont plus intéressantes aujourd'hui, et donc il faut tenir compte de tout ça aujourd'hui dans la reconstruction. Alors, il est évident également que nous sommes aussi sujets à des mises en conformité. Aujourd'hui, un bâtiment qui a été construit il y a 20 ans ne doit pas présenter les mêmes caractéristiques de construction qu'actuellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mises en conformité, on a beaucoup de choses qui interviennent et tout ça. Donc il y a une révolution au niveau de la reconstruction des bâtiments, donc il faut en tenir compte en effet dans la valorisation.
Et donc on a ces circuits de recyclage qui permettent, c'est ça, d'avoir un coût en fait contenu,
oui,
si on réutilise finalement des choses qui existent déjà, peut-être à l'échelle de la commune, du département.
Et il peut arriver même que parfois, avec ces nouveaux matériaux, on soit sur des coûts moindres que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique. Et c'est ça, il faut en tenir compte.
Alors, David Pitoun,
un approvisionnement plus rapide aussi.
C'est ça.
Donc l'empreinte carbone, tous ces sujets-là aujourd'hui dans l'économie circulaire comptent aujourd'hui sur la construction et à la fois des PME, PMI qui sont dans tous ces critères-là. En fait.
Et puis sur l'impact financier, puisque l'impact financier, si l'entreprise se reconstruit plus rapidement, ça permet de reprendre son activité plus rapidement, donc de diminuer le préjudice financier.
Mais alors, vous l'avez dit, on regarde l'inflation, les nouvelles réglementations, la forte hausse du coût des matériaux. C'est sûr qu'un nouveau bâtiment va coûter forcément mécaniquement plus cher. Comment vous calculez à ce moment-là la remise à neuf ?
Ah, c'est très intéressant, la remise à neuf. Parce que, encore une fois, comme je l'expliquais, on la doit au jour du sinistre. Et il existe, je dis souvent à mes experts, il existe plusieurs tiroirs parfois dans les contrats d'assurance, notamment sur les notions de mise en conformité. Il y a des notions de mise en conformité qui peuvent être très intéressantes aujourd'hui et donc sur lesquelles il faut intervenir aujourd'hui, mais bien décrire la mise en conformité pour qu'elle soit indemnisable. C'est important qu'elle soit indemnisable. Il existe des mises en conformité au moment de la construction du bâtiment, il n'existait pas, donc il faut démontrer que depuis la construction du bâtiment, il n'y avait pas ces mises en conformité pour les revendiquer au titre de l'indemnité. Il y a beaucoup de questions comme ça qui interviennent, donc il faut vraiment être à jour de toutes les données et de toutes ces informations. Donc c'est un gros travail de veille juridique.
Oui.
Un gros travail de veille juridique là-dessus qui doit être créé par nos experts.
Non, pardonnez-moi, mais on pourrait penser que quelqu'un qui finalement n'est pas en conformité ou a des bâtiments un petit peu vétustes, oui, pourrait se dire mon bâtiment, s'il disparaît et qu'il est reconstruit à neuf par l'assureur, et je pense que dans beaucoup d'enquêtes, la nature du sinistre, hein, ça peut être aussi accidentel, mais aussi volontaire parfois, ça peut être tentant pour certains de se dire, finalement, je vais me faire financer mon entrepôt avec la nouvelle réglementation par l'assureur.
Alors, moi, je me rappelle, je vais vous donner un petit exemple.
Oui.
Une fois, on était sur ce qu'on appelle une réunion de constitution. Et une réunion de constitution, c'est la première réunion avec tous les assureurs. Donc, c'était une grosse PME, PMI qui avait brûlé. Et donc, comme dans beaucoup de marchés en France, c'est assez cloisonné entre la prévention et le sinistre. Donc, on était entre gens du sinistre, et puis l'expert de compagnie me dit, il y a le préventionniste de la compagnie qui souhaite intervenir. Je dis, mais entre nous, il n'a pas à intervenir. Si, si, il doit intervenir. Bon, on fait un ordre du jour, et puis il arrive pendant la réunion. Et à un moment donné, il se pose le problème du sprinklage. Du sprinklage. Donc, dans tous les entrepôts, on a un réseau sprinklage qui peut se mettre en place et qui peut mettre, soi-disant, de diminuer le sinistre. C'est pas forcément tout le temps le cas, mais pour le coup, là, c'était le cas. Et la mise en place d'un sprinklage, ça peut avoir des coûts très importants. Donc, de l'ordre de 1,5 million, là, c'était une charge d'un million et demi supplémentaire. Et le préventionniste qui prend la parole dit, moi, je veux absolument que dans le futur bâtiment, on mette un sprinklage. Il dit, mais monsieur, nous, on n'est pas opposés, mais qui va financer ça? Et l'assureur et le préventionniste, et là, je regardais les personnes du sinistre, parce qu'ils voyaient le coût du sinistre augmenter, et le préventionniste dit, mais les assureurs prendront leurs responsabilités. Très bien, j'ai pris note, donc j'ai pris note ce que ça voulait dire, donc ok, vous investissez, moi, ça me va bien. Donc on a présenté la mise en place du sprinklage, spécifiquement pour ce dossier, dans le cadre des mises en conformité.
Coralie, une question pour vous. Vous qui êtes directrice du pôle immobilier, est-ce que justement il y a des synergies entre les différents pôles Galtier? On voit sinistre, immobilier, on reste dans le même univers.
Alors il y a beaucoup de synergies au niveau de notre groupe, dans les trois pôles, hein, sinistre, évaluation, immobilier. Et en plus, nous, ce que nous voulons, c'est accompagner nos clients. Donc les grands comptes, les clients PME, PMI, c'est leur faire une offre globale. Donc les synergies, elles se posent déjà au niveau de l'évaluation. En amont, c'est de faire une bonne évaluation d'assurance pour présenter après le dossier. Donc, David peut en parler. Il y a beaucoup de synergies avec le pôle évaluation.
Ouais,
et il en parlera après. Et sur le pôle immobilier, il y a évidemment beaucoup de synergies. Puisque vous le savez, dans le pôle immobilier, il y a effectivement Galtier Evaluation, mais il y a aussi G2E sur l'environnement et puis diagnostic bâtiment.
Bien sûr.
Donc en amont, si on prend toutes les précautions de bien faire les audits et de se mettre en conformité, ça permet de prouver que les bâtiments, notamment au niveau de l'ICPE, au niveau de tout ce qui est la réglementation, audit de terrain, etc., tout était bien conforme. Donc, on peut proposer à nos clients en amont de se mettre vraiment en conformité, de faire les audits qui prouveront, lorsque David intervient, que c'était en conformité. Donc là, on a des audits qui sont faits par nos équipes techniques et de G2E. Et puis, Galtier Evaluation peut tout à fait intervenir pour faire régulièrement une valorisation du bâtiment, mais en valeur économique, valeur vénale, pas en valeur d'assurance, mais ça peut servir, ou valeur de fonds, comme on le disait. Donc là aussi, on fait des valeurs d'entreprise et valeurs de fonds au sein du pôle évaluation. Donc on peut vraiment être là pour nos clients, les conseiller, mais avant les sinistres aussi, on n'attend pas forcément le sinistre, donc bien en amont, les conseiller pour être mieux garantis, mieux défendus, faites déjà tous ces audits et toutes ces valorisations, ce qui facilite après le travail de David et de ses équipes pour défendre les clients. Donc les synergies, elles sont multiples. Alors on intervient encore souvent après, notamment sur tous les risques d'environnement où l'équipe de G2E, nous sommes venus avec Marie-Pierre Loisel, intervient de plus en plus au niveau ICPE, au niveau ERP, etc. Surtout ces sinistres-là. Grosse demande. Après le sinistre, nous, ça nous arrive aussi au niveau du pôle immobilier d'intervenir sur quelle était la valeur de l'immeuble. On a fait la valeur vénale de l'immeuble, perte de fonds de commerce. Donc il y a plein de sujets et le but, c'est vraiment de conseiller nos clients et les accompagner tout au long de la vie d'un bâtiment. On n'attend pas que le sinistre.
Donc, et bien sûr, le fait d'avoir cette expertise prévention permet aussi d'avertir le client, de se dire attention, hein, évidemment. On n'a peut-être pas cette notion. Je pense que les chefs d'entreprise que vous rencontrez sont sur l'exploitation et on ne pense pas forcément
à l'accident. Les contrats, c'est ce que dit David. Regardez votre contrat et faites les audits.
Complètement. On voit les chefs d'entreprise qui sont complètement perdus. Des chefs d'entreprise avec des grosses PME, PMI, après un sinistre, ils sont complètement perdus.
Ben, on regarde souvent son contrat d'assurance et on commence à lire les petites lignes le jour où le sinistre survient.
Voilà, c'est complètement ça. C'est malheureusement complètement ça. Alors, à moins d'avoir une fonction risque management dans un groupe et tout ça, dans lequel on a une lecture du contrat qui est plus quotidienne et qui est plus professionnelle, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'un responsable de PME, PMI, il fait souvent confiance à son intermédiaire, à son courtier, à son agent d'assurance. Et le jour du sinistre, il est complètement désemparé.
Alors justement, David Pitoun, si vous aviez un conseil à donner lors de la validation d'un contrat d'assurance, quelles sont les trois garanties que vous préconiseriez et pourquoi ?
Alors, sur une PME-PMI, j'incite beaucoup les assurés à souscrire des pertes d'exploitation. Garantie perte d'exploitation. Alors aujourd'hui, la perte d'exploitation était garantie consécutivement à un dommage garanti, dommage matériel garanti. Aujourd'hui, par la suite de la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes d'exploitation consécutives à sans dommage. Donc aujourd'hui, j'espère que les compagnies d'assurance aujourd'hui proposent et que les courtiers et que toutes les fonctions risque management mettent en place des polices pertes d'exploitation sans dommage, c'est-à-dire où il n'y a pas de dommage matériel et une perte d'exploitation qui impacte.
Voilà, tout à coup je perds du chiffre d'affaires. Voilà. Je ne peux pas dire c'est dû à justement un incendie.
Tout à fait.
Bon, quelle que soit la nature finalement.
Je pense que c'est important aujourd'hui. Alors après, il faut bien le caractériser parce qu'il y a l'histoire du marché aussi. À un moment donné, on peut. Il faut qu'il y ait un aléa à un moment donné.
Voilà, parce que s'il y a une récession globale où tout le monde voit son chiffre d'affaires baisser, on risque d'y rentrer malheureusement.
Un élément déclencheur, un événement générateur, comme on dit en matière d'assurance. Mais l'événement générateur, c'est pas forcément qu'il y ait un dommage. Ça peut être autre chose. Je pense malheureusement à ce qu'on a vécu avec l'épidémie de la Covid. Aujourd'hui, il n'y avait pas de dommage en tant que tel. Et il y a beaucoup d'assureurs qui n'ont pas garanti.
Se retrancher dans le contrat, on dit il n'y a pas d'événement générateur.
Il n'y a pas d'événement générateur, il n'y a pas de dommage matériel. Donc, s'il n'y a pas de dommage matériel, votre perte d'exploitation n'est pas applicable. Ça, c'est la première chose. Donc, perte d'exploitation, souscrire des pertes d'exploitation. La deuxième chose, ne pas hésiter à prendre des périodes d'indemnisation de plus en plus longues. C'est-à-dire, je m'explique, pour une PME-PMI, aujourd'hui, qui a 5000 m² avec un seul site de production, qui n'a même pas d'autres sites de production, de mettre des périodes d'indemnisation de 24 mois, c'est un minimum. Aujourd'hui, avec les délais de reconstruction que nous avons, avec toutes les contraintes administratives qu'il existe, avec les problématiques d'amiante qui peuvent se lever, plein de choses, aujourd'hui, 24 mois, c'est rapide, c'est court, c'est très court. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des durées de période d'indemnisation très importantes. Surtout si on n'est pas équipé en risque management. Quand j'ai dit équipé en risque management, c'est quand il y a un risque manager qui va bien définir le risque. Et là, je reviens sur la synergie avec les autres pôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le pôle évaluation, quand on a une bonne définition du risque en amont, c'est-à-dire qu'on connaît bien les capitaux, qu'on connaît bien la façon de travailler l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait également des pertes d'exploitation, des études pertes d'exploitation avant sinistre, c'est-à-dire dans lequel on essaye de modéliser la perte d'exploitation, comment elle pourrait être chiffrée, et pas seulement de définir des sinistres maximums, comme ça se passe pour les assureurs, mais de trouver d'autres solutions, c'est-à-dire de mettre en place de la sous-traitance, quel est l'impact et tout ça. Donc si on fait bien ça en amont, ça le permet à l'industriel d'avoir une meilleure définition du risque et d'avoir le jour du sinistre, malheureusement, quand le risque intervient, d'avoir une meilleure possibilité d'avoir un meilleur PCA. Le PCA est très important aujourd'hui dans les
PCA, c'est le plan de continuité d'activité. J'ai vu ça dans une autre vie, effectivement. J'avais plus l'acronyme en tête. On a parlé cybersécurité. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, une garantie qu'il faut prendre aujourd'hui ?
Je pense qu'aujourd'hui, les assureurs reviennent sur le risque et il est grand temps. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudra qu'il y ait des contraintes en amont avec des audits complets des systèmes d'information. Donc, il faut qu'il y ait des choses.
Donc l'audit est nécessaire, ça veut dire qu'il va falloir quand même investir en amont pour dire, voilà, scanner un petit peu l'état des lieux.
Tout à fait.
Et c'est à cette condition qu'on aura une assurance cyber.
On diminue le risque par ces audits. Donc, il y a une meilleure visibilité du risque. Donc, il faut faire cet audit. Et puis, et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter également. Alors là, c'est par expérience à la suite de sinistres. Une entreprise qui subit une attaque cyber, tout le système informatique et toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur du système informatique sont pris par cette problématique-là. Donc on s'aperçoit que les autres marchés, les autres tâches qui étaient habituellement occupées par ces personnes-là sont complètement laissées à l'abandon. Donc on s'aperçoit qu'il y a une perte. Et là, moi, j'envisagerais plutôt de la part des assureurs un positionnement très clair par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on investit un capital qui est donné à la personne qui va remédier à la problématique du cyber à l'intérieur pour lui permettre d'accorder du temps aux autres équipes. Donc, voilà. Donc, c'est important qu'on réfléchisse à ça. Mais bon, ça, c'est les assureurs qui devront réfléchir à ça.
Et puis, on parlait également du climat qui est en train de changer, la sécheresse qui peut provoquer des effondrements, une garantie effondrement. C'est quelque chose que vous recommandez sur certains périmètres ?
Alors, il y a eu plusieurs effondrements récemment en France. Donc, vous avez connu, malheureusement, la rue d'Aubagne à Marseille, qui était un pur effondrement parce que les bâtiments n'étaient pas entretenus. Et voilà, donc il y a eu ça. Il y a eu l'événement à Lille récemment aussi, dans le Vieux-Lille, où il y a eu un effondrement, et puis plus récemment, la rue Tivoli. Alors la rue Tivoli à Marseille, c'est pas un effondrement en tant que tel, c'est d'abord une explosion. L'origine, c'est l'explosion. Malheureusement, c'est une personne âgée qui avait laissé son gaz, apparemment, et qui aurait créé cette explosion. Donc, en effet, moi, sur des problématiques bâtiments, j'incite j'incite aujourd'hui, notamment dans les grandes communes, à souscrire des polices dans lesquelles la garantie effondrement existe. C'est-à-dire aujourd'hui, je me rappelle également sur Marseille, quand il y a eu des travaux, des gros travaux comme ils peuvent avoir dans les grandes communautés aujourd'hui, notamment des travaux sur les tramways, des choses comme ça, ça crée des vibrations et ça peut engendrer des effondrements, ces vibrations. Donc ça, aujourd'hui, il est important que les syndics de copropriété, puisque c'est souvent des copropriétés, les syndics de copropriété soient alertés et mettent en place sur leur police d'assurance immeuble la garantie effondrement.
Voilà, donc en résumé, garantie perte d'exploitation sur de longues périodes, minimum 24 mois, le risque cyber à ne pas négliger, il est de plus en plus important, et enfin garantie effondrement, notamment pour les copros. On a fait le tour, Coralie ?
On en a fait le tour.
Bah, écoutez, c'est pas mal, on en sait un petit peu plus justement. En tout cas, il est sûr qu'on a une explosion des sinistres due, on l'a dit, à des nouvelles menaces cyber, à un climat qui change également pour la sécheresse, l'effondrement. Donc c'est important pour tous ceux qui conduisent des business, effectivement, de faire cet audit et puis de voir s'ils sont bien défendus. En tout cas, les équipes d'expertise Galtier sont là. Un grand merci à nos experts du jour. Coralie, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée du pôle immobilier chez Expertise Galtier. Et puis merci à David Pitoun qui était très clair sur l'ensemble de ces sinistres. Directeur délégué, on l'attendait au moins pour un directeur général délégué, directeur du pôle sinistre, qui se balade partout dans le monde puisque, évidemment, le groupe rayonne un petit peu partout. Expertise Galtier. Un grand merci. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission spéciale
à
Galtier. À très bientôt.
Merci.
Émission spéciale Expertise Galtier. Face à l'explosion des sinistres, êtes-vous bien assuré sur Radio Immo.